Ciel FM.
Vous écoutez Bonjour Grand Portage avec Kevin Beaulé.
Moi, je sais que Daniel a travaillé beaucoup là-dessus dans les dernières semaines. La situation des agents de la faune du Québec présentement qui inquiète en raison d'un manque d'effectifs, c'est partout, sur tous les territoires. Ça touche bien sûr le Bas-Saint-Laurent. Et à travers tout ça, les agents de la faune sont sans convention collective. Je pense que c'est depuis 30 mois. Imaginez, là, depuis 30 mois, ces gens-là travaillent sans convention collective. D'ailleurs, les négociations qui doivent reprendre incessamment, même si c'est peut-être même aujourd'hui. Et ce matin, on a l'occasion de jaser avec Martin Perrault. Il est le président du syndicat des agents de la faune du Québec. Il est en ligne. Bon matin, M. Perrault.
Bon matin, M. Beaulé.
Donc, parlez-moi de cette situation-là qui est invraisemblable. Vous êtes sans convention collective depuis maintenant 30 mois. Où est-ce que ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui achoppe présentement dans les négociations?
Oui, exactement. Ça fait depuis le 1er avril 2020 qu'on est sans contrat de travail. Puis le contrat présentement qui est proposé, c'est un contrat de 3 ans. Donc, tombe échu le 31 mars 2023. Les discussions ont été longues. On s'entend, là, avec la pandémie, il y a eu certains retards, là, mais quand le rythme de croisière a repris, là, on s'est rendu compte qu'on se heurtait à l'appareil gouvernemental, l'appareil du Conseil du Trésor, parce que présentement, contrairement à d'autres négociations par le passé, on a sensiblement les mêmes idées avec l'employeur, qui est la protection de la faune du Québec, mais quand le Conseil du Trésor vient pas s'ingérer, parce que la négociation relève d'eux, là, mais quand ils viennent mettre un peu trop leur nez là-dedans, ben c'est là qu'on rencontre des problématiques, puis que ça l'accroche sur des points que ça ne devrait même pas accrocher.
Donc, c'est particulier. L'employeur reconnaît la même chose que vous, mais lorsque ça doit passer par le Conseil du Trésor, ça vient un peu brouiller les négociations.
Exactement. On s'entend qu'on n'est pas tout le temps sur la même longueur d'onde. C'est souvent le chemin à emprunter pour s'y rendre, mais pour cette négociation-là, je vous dirais qu'on a... On constate les mêmes enjeux sur le terrain, les mêmes enjeux au niveau des conditions de travail. À force de se parler, on se comprend, mais avec l'appareil Conseil du Trésor, là, on a beaucoup de misère à avancer et à cheminer.
Ce qu'il y a de fascinant dans votre histoire, M. Perrault, c'est lorsqu'on va être en mesure de ratifier cette nouvelle convention collective, il va falloir pratiquement déjà commencer à négocier la prochaine?
Oui, c'est ça qui est encore plus illogique, si on veut. Par la loi, on est obligé de démontrer notre intention de négocier au gouvernement dans les 150 jours avant la fin d'une convention. Donc, le 31 octobre dernier, il a fallu que j'envoie ma correspondance aux autorités pour dire que oui, effectivement, on est à l'aise, on n'est pas à l'aise du tout, là, mais on est intéressé à négocier, mais on s'entend qu'on négociera pas avant d'avoir fini celle-là. On négociera pas une convention en n'ayant pas fini l'autre.
Non, ça n'a pas de bon sens. Quels sont les points présentement où ça achoppe?
Il y a quelques points, mais les deux points majeurs que ça achoppe là, vraiment pour la convention collective, c'est une demande conjointe qu'on a avec 4 autres corps d'agents de la paix. On veut simplement créer un comité pour pouvoir parler de nos conditions de retraite. Parce que présentement, les employés de la fonction publique sont assujettis au REGOP, le régime de retraite de la fonction publique, dont on en fait partie, mais les 4 corps d'agents de la paix, on veut s'asseoir avec le gouvernement, parce que notre demande présentement, c'est simplement de s'asseoir puis discuter pour voir les alternatives, les différentes options qui pourraient se prêter à nous pour modifier certaines conditions du régime de retraite.
Ouais.
Ça, c'est un des éléments. L'autre élément, c'est, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, on a un sérieux problème d'attraction et de rétention de personnel. Donc, il y a des enjeux au niveau salariaux qui accrochent, là, puis qu'on veut régler. Puis on n'en demande pas plus que les autres. On veut juste simplement la parité avec les groupes d'agents de la paix qui ont signé présentement.
Ouais, parce que c'est impressionnant lorsqu'on prend en compte qu'en 2018, on retrouvait 440 agents de la faune partout au Québec. Et aujourd'hui, il y en a moins de 300. Là. Donc, il y a vraiment un problème, comme vous l'avez mentionné, de rétention qui est très important.
Oui, c'est la rétention qui est un phénomène. Là. Les départs volontaires, c'est quelque chose que, si on recule, mettons, de 10 ans, 5 à 10 ans, on ne voyait pratiquement pas. Là, présentement, les chiffres qui sont en baisse, je vous dirais, c'est environ 50-50, c'est des départs à la retraite et des départs volontaires. Donc, si on prend l'année 2021, vous rentrez pas dans une guerre de chiffres avec le ministère, là, on avait des chiffres un petit peu différents, mais même si on prend juste les chiffres du ministère, c'est environ 30-32 départs, mais la moitié, c'est des départs volontaires.
Ouais.
Donc, juste en une année, on perd quasiment 15-16 personnes. Ça, c'est juste uniquement pour 2021. Donc, il y a un sérieux problème de rétention puis d'attraction parce que présentement, ça fait depuis 2019, on a formé seulement 11 nouvelles personnes.
Comment ça qu'on en forme si peu? Ça se passe où, la formation, pour devenir agent de la fonte?
Présentement, il y a un cours au Cégep d'Alma, qui est l'attestation d'études collégiales en protection de la fonte, qui est donnée au Cégep d'Alma. Suite à ça, ben là, il faut rentrer dans le processus puis dans l'appareil gouvernemental. On applique sur un concours, certains examens, tests physiques, médicaux. Une fois que tout ça est réussi, ben là, les personnes qui vont passer au travers de ce processus-là devront aller faire une formation d'appoint, une formation de base à l'école de Duchesnay. Puis le pendant pour
Nicolet.
Les policiers, c'est Nicolette, exactement. Okay. Nous, ça se passe à Duchesnay. Mais il n'y a pas de formation qui se donne. Comme j'ai dit, depuis 2019, 11 nouvelles personnes. On a mis beaucoup l'emphase sur la pandémie, mais la pandémie a eu le dos un peu trop large à ce niveau-là parce que 11 personnes en 3 ans, c'est illogique. Puis là, présentement, on n'a pas personne, on n'a pas de cohorte qui sont là. Il est supposé d'en avoir une en février. Initialement, elle était supposée d'être en août, après ça, septembre, octobre, après ça, février. Donc, est-ce qu'elle va rentrer en février? Ouais. J'ai hâte de voir.
Parce que vous me corrigerez si je me trompe, j'ai l'impression que les jeunes qui terminent leur formation à Alma, la période de temps entre la fin de la formation et le fait qu'ils puissent être formés officiellement du côté de Duchesnay, parfois la période est si longue, il y en a peut-être là-dedans qui se découragent et qui se tournent vers d'autres corps de métier.
Ben, c'est exactement. C'est, de nos jours, on l'a vu avec le coût de la vie qui a explosé, on peut pas dire ben moi j'ai fini mon cours de cégep, puis je vais attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être même 3 ans sur une liste avant de me faire appeler. Fait que le monde se réoriente ailleurs. Puis c'est ça qui fait en sorte que, tu sais, quand on a des discussions avec l'employeur, on a plein de noms sur les listes, il n'y a pas de problème d'attraction, peut-être de rétention, mais pas d'attraction. Ouais, mais quand c'est le temps d'appeler le monde ne sont plus disponibles. Tu peux pas avoir une liste de 500 personnes. Si tu n'es pas capable de faire une cohorte de 24 avec 500 personnes, on a un sérieux problème.
Ouais. Monsieur Perrault, quelle est la situation présentement au Bas-Saint-Laurent? Là, on a parlé de la situation au Québec, mais bon, on est situé sur le KRTB. Quelle est la situation présentement? Est-ce que c'est aussi alarmant qu'ailleurs en province?
Ben, je vous dirais que la province, comme le Bas-Saint-Laurent, là, c'est tout le temps, c'est des chiffres qui ne sont pas le fun, ne sont pas beaux à voir. Dans le Bas-Saint-Laurent, si on exclut Matane, là, il y a un gros 15 à 16 agents de protection de la fonte, dont un bureau qui est carrément à zéro.
Fait que, à la Pocatière.
À la Pocatière, exactement. C'est un bureau qui est à zéro.
Et dans le meilleur des mondes, ça en prendrait combien pour assurer une protection adéquate?
Nous, depuis plusieurs années, puis même mes prédécesseurs en parlaient, ça prend au moins un 6 à 8 agents par bureau. Quand on commence à être 6 à 8 agents par bureau, on commence à être sécuritaire et opérationnel. Faut pas oublier qu'on est, on travaille une fin de semaine sur deux. Donc, quand, mettons, on a un bureau de 6, une fin de semaine, il n'y aura jamais plus que 3 agents qui vont travailler. Donc, ça devient difficile de faire des opérations, faire le travail adéquat quand tu es seulement 3, 2 ou 1
ben
personne,
oui,
ou même des fins de semaine, il y a eu beaucoup de fins de semaine qui peut avoir des trous noirs, là, qu'il n'y a pas personne.
Puis pour couvrir des immenses territoires également.
Exactement.
Et ça a quel impact le fait que, bon, à la Pocatière, il n'y ait personne dans le bureau et que dans les autres endroits, on est en manque d'effectifs? J'imagine qu'on ouvre la porte à bien des gens mal intentionnés.
Exactement. Si on ne nous voit pas sur le terrain, c'est sûr que les personnes qui sont mal intentionnées, puis là, j'inclus pas toute la communauté de chasseurs et pêcheurs, on s'entend, là, c'est vraiment une petite partie, mais ça rouvre effectivement la porte de contrevenir aux lois. Quand on prend l'exemple du bureau de la Pocatière, oui, on va redécouper le territoire aux autres bureaux, mais on n'a pas doublé le nombre dans les autres bureaux. Donc, ces bureaux-là se ramassent avec plus grand territoire à couvrir. Déjà qu'ils en ont grand avec leur bureau, ben là, ils ont encore plus grand territoire à couvrir. Donc, c'est juste d'essayer de pallier au manque de personnel, mais ça, sur le terrain, concrètement, c'est la population qui en paye le prix parce qu'on n'est pas là.
En terminant, M. Perrault, est-ce que vous êtes confiant de pouvoir renverser la tendance? J'ai l'impression que ça ne sera pas juste avec une nouvelle convention collective qu'on va être en mesure de régler tous les maux. Ça va être un travail de longue haleine.
Exactement. La convention collective, on s'entend, va faire un pas de plus vers l'attraction, vers la rétention de nos agents. Mais il y a aussi la formation. Il faut commencer à s'occuper des agents sur le terrain présentement. Ça, c'est la première chose. de donner des postes permanents, parce que c'est encore surprenant de voir en 2022 qu'on a des statuts saisonniers et des statuts temps partiel réguliers. Ça devrait être banni d'avoir tout le monde des 12 mois, puis ensuite de ça, faut engager du monde. Faut qu'Alma, pas Alma, mais Duchesnay, réengage des cohortes, puis qu'il faut repartir ça, on n'a pas le choix.
Monsieur Perrault, très intéressant. Merci beaucoup de votre temps ce matin.
Merci à vous.
Merci, bye-bye. Donc, Martin Perrault, président du syndicat des agents de la faune du Québec. Très, très, très intéressant.